Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Rougeur, œdème, sensation de chaleur, douleur dans la jambe, les signes de la phlébite, aussi appelée thrombose veineuse, peuvent être progressifs. Une phlébite, c'est donc la formation anormale d'un caillot qui obstrue une veine, le plus souvent au niveau du mollet ou de la cuisse, mais aussi d'un membre supérieur ou du cerveau. Un trouble cardiovasculaire qu'il faut savoir détecter pour le prendre en charge le plus tôt possible, un facteur temps effectivement essentiel car dans certains cas, le caillot peut migrer jusqu'au poumon. Une complication qui engage alors le pronostic vital. On parle d'embolie pulmonaire, elle-même responsable de 10 à 20 000 décès chaque année en France. Souvent méconnue, la phlébite cause pourtant plus de 500 000 décès chaque année en Europe. Elle survient le plus souvent à la suite d'une longue immobilisation, une chirurgie suivie d'un alitement par exemple. Elle est également plus fréquente chez les femmes enceintes et touche un quart des malades de cancer. Alors quels sont les symptômes d'une thrombose veineuse? Dans quelle situation doit-on prendre des précautions? Quels sont les traitements adaptés? Si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75. Aujourd'hui dans Priorité Santé, en studio avec nous, docteur Tristan Miro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin interniste et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et à l'hôpital Corentin Celleton à Issy-les-Moulineaux. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Cameroun le docteur Marcus Foucou, chirurgien vasculaire à l'hôpital général de Yaoundé. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur la 6e journée nationale de l'infertilité avec le docteur Colin Chao, responsable de l'unité de procréation médicalement assistée de l'hôpital Saint-Denis en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Tristan Miro, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps lorsqu'on fait une phlébite?
Donc une phlébite, il faut bien s'imaginer qu'en fait c'est l'occlusion d'une veine, c'est-à-dire que dans le système circulatoire qu'on a, je rappelle, à partir du cœur, il y a des artères qui partent, qui amènent le sang plein d'oxygène au niveau des organes, et les veines repartent de ces organes et des membres et ramènent le sang vers le cœur et les poumons pour être à nouveau oxygénés. Donc c'est le système retour en fait du sang vers la partie interne, le cœur et les poumons. Et donc on peut avoir une veine qui se bouche, qui s'obstrue. Il y a une thrombose qui se forme à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça une phlébite.
Et d'ailleurs, on distingue deux types différents.
Donc, en fait, c'est surtout qu'on distingue un réseau veineux profond, qui est les veines à l'intérieur vraiment du corps, dans les mollets, dans les muscles, et puis un réseau veineux superficiel, celui qu'on voit sous la peau, qu'on peut voir au niveau des mains, au niveau des avant-bras, même les varices qu'on peut avoir au niveau des jambes. Et ce réseau veineux superficiel va évidemment aussi rapporter à la fin le sang vers le cœur, mais c'est pas du tout la même gravité, et on parle à ce moment-là de phlébite superficielle, et qui se traite pas de la même manière et qui ont pas le même pronostic.
Et qui peut être un signal d'alarme pour la phlébite.
Oui,
profonde.
Et puis il peut y avoir d'autres pathologies. On a vu les varices notamment. Quand on fait des occlusions de varices, c'est des phlébites superficielles. Et ça peut vraiment rien avoir avec les phlébites profondes au niveau des membres inférieurs. C'est celles qui donnent les complications dont vous avez un peu parlé en tête, qui est l'embolie pulmonaire.
Alors justement, c'est le cas donc le plus grave, car le caillot de la phlébite profonde peut donc migrer jusqu'à l'artère pulmonaire, plus gravement même jusqu'au cœur, et l'obstruer. Et c'est donc ce qu'on appelle embolie pulmonaire.
Voilà, ce qu'on appelle embolie, c'est le terme embole, qui veut bien dire en fait que ça vient de quelque part et que ça migre par la circulation jusqu'au cœur et après le cœur, en fait, au niveau des poumons, là où normalement le sang veineux se trouve à nouveau oxygéné, eh bien là, il y a un caillot, une thrombose qui a migré, qui a donné un embole, qui est allé dans les artères des poumons, boucher ces artères. C'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire et c'est vrai que c'est la pathologie la plus grave dans cette maladie veineuse thrombolique, c'est celle où il peut y avoir un décès.
Et d'ailleurs, de façon plus générale, à peu près 70% des cas d'embolie pulmonaire sont causés par un caillot sanguin initialement formé dans une veine.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la même, ce qu'on appelle physiopathologie, c'est-à-dire que c'est une embolie pulmonaire vient très souvent d'une phlébite et parfois on ne retrouve pas la phlébite au niveau des membres inférieurs, mais parce que le caillot a migré et on sait que quand on a une thrombose veineuse des membres inférieurs, une phlébite, On n'a pas forcément besoin de rechercher l'embolie pulmonaire s'il n'y a pas eu de symptômes. On sait qu'à peu près une fois sur deux, en cas de phlébite, il y a une embolie pulmonaire. Mais encore une fois, c'est le même cadre de maladie et le même traitement, on va le voir par la suite.
Alors dans les deux cas, il faut donc réagir rapidement. Mais docteur Tristan Miro, comment se manifeste la phlébite? Quels sont les signes qui doivent alerter?
Alors ce qui doit alerter, effectivement, c'est des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. Malheureusement ou heureusement, c'est-à-dire que une douleur, une lourdeur, une rougeur au niveau d'un mollet, d'une cheville, peut témoigner de la présence d'une phlébite. Une des choses importantes, c'est quand même le début souvent brutal, c'est-à-dire qu'on n'avait rien et puis assez rapidement, on va avoir des symptômes qui apparaissent. D'un côté, par exemple, au niveau d'un mollet, une douleur, le mollet qui est plus tendu, qui est douloureux, et puis de l'œdème, c'est-à-dire un gonflement un peu au niveau des chevilles, les veines qui vont apparaître un peu plus marquées au niveau de la jambe à ce moment-là, et cette douleur qui ne passe pas, évidemment.
Et souvent, quand on relève le pied vers le haut.
Voilà, donc ça, c'est ce que va faire le médecin. Il y a un signe qu'on appelle le signe de Homans, qui est effectivement de plier assez rapidement, de tendre en fait le mollet, de plier le pied vers la jambe. Et si ça reproduit la douleur, et ce moment-là, ça évoque encore plus une phlébite.
Alors les signes ne sont pas forcément systématiquement présents, ni très spécifiques. Qui est-ce qu'il faut consulter à l'apparition de ces premiers symptômes et comment faire quand on n'a pas accès à un spécialiste?
Donc, l'examen de référence, c'est l'échographie Doppler. C'est l'examen avec un appareil d'échographie, un médecin angiologue, un médecin radiologue, un cardiologue aussi qui peut réaliser, un médecin vasculaire, qui va pouvoir regarder les veines par un appareil d'échographie et voir effectivement si ces veines sont bouchées ou pas. Donc, je dirais que...
Examen indolore.
Examen qui se fait... tout à fait. C'est un examen dit non-invasif. Même non irradiant, c'est-à-dire que même chez les femmes enceintes, on peut faire une échographie Doppler, il n'y a pas de problème. Alors après, il faut avoir accès à cet examen-là. C'est sûr que quand on a ces symptômes, il faut contacter soit son médecin généraliste habituel, qui normalement très rapidement a un réseau, il connaît les angiologues avec qui il travaille et va vous orienter vers quelqu'un qui va pouvoir réaliser l'examen. Sinon, ne pas hésiter à contacter des services d'urgence, SOS médecin, le SAMU aussi. Le SAMU peut tout à fait orienter, il ne va pas forcément envoyer l'ambulance du SAMU chez vous pour vous prendre en charge, mais vous dire que voici les médecins angiologues de garde ou qui peuvent faire des examens très rapidement. Et l'écho Doppler va très rapidement dire oui, il y a une phlébite ou non, soyez rassurés, cette douleur, c'est peut-être parce que vous avez couru hier et que du coup, il y a un peu de douleur dans le mollet, mais ce n'est pas une phlébite, soyez rassurés.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres et des facteurs de risque?
Alors, les facteurs de risque de faire un premier événement, de faire un premier événement de phlébite, c'est l'âge. Plus on augmente en âge, plus on est à risque de faire une phlébite ou thrombose veineuse, c'est le même terme. L'obésité, qui va favoriser en fait le fait d'avoir une stase, c'est-à-dire que le sang a du mal à remonter et stagne un peu dans les veines. Et puis, les situations vraiment très à risque, on va en reparler, mais qui sont les chirurgies, les alitements, le fait d'avoir un plâtre, l'immobilisation, etc. Où là, on sent bien qu'effectivement, le sang va rester un peu plus au niveau des veines, stagner, et du coup, on a un risque de phlébite. Il faut peut-être juste que je précise à ce moment-là qu'effectivement, imaginez bien que dans le mollet, effectivement, les veines en fait sont contractées par le muscle. En fait. C'est-à-dire que les veines, c'est des vaisseaux, des tuyaux assez souples, à la différence des artères qui sont très costauds, qui, même sans le sang à l'intérieur de l'artère, vous avez un tuyau. Sans le sang dans une veine, elle est toute plate, en fait. Et donc, quand on marche, quand on se mobilise, quand on est actif, le mollet, la cuisse vont comprimer les veines et vont faciliter le retour du sang vers le cœur.
Alors, il y a quand même une partie de la population qui est plus sensible à la phlébite, c'est les femmes enceintes.
Donc,
pourquoi ?
Globalement, les femmes sont plus sensibles aux thromboses veineuses. C'est une raison hormonale, tout simplement. Donc, au cours de la grossesse, on augmente aussi le risque pour plusieurs facteurs. Pour les raisons hormonales, pour aussi des raisons de moindre mobilisation, de prise de poids, le fait d'avoir deux circulations, la circulation de l'enfant qui va être à naître, qui augmente le volume sanguin et qui va favorisé, on le sait malheureusement chez les femmes enceintes, notamment l'été, il y a plus d'œdème au niveau des chevilles, c'est qu'il y a un problème de retour en fait du sang veineux vers le cœur, et donc ça va favoriser les phlébites.
Tout de suite, je vous propose un témoignage, c'est celui d'Éric, 50 ans, producteur de musique, ancien sportif de haut niveau et gros travailleur avec un rythme de vie assez stressant. Il a été arrêté net dans sa course, si je puis dire, par une phlébite il y a quelques années. Mostefaoui l'a rencontré à Paris.
Souvent, moi, je prends très peu l'ascenseur. Je monte à pied très rapidement. Et je montais, j'étais essoufflé très rapidement. Je ne comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait que je suis essoufflé 5 étages. Je les monte normalement très facilement. Ça a commencé à durer quelques mois comme ça. Je me disais, est-ce que c'est ça la vieillesse tout d'un coup? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'était vraiment, j'étais vraiment dans une gêne quand je marchais, la moindre chose quand je parlais. Là, je me disais, c'est pas possible, j'ai quelque chose. Là, je venais pas comprendre que j'avais quelque chose. À chaque fois que je respirais, je ressentais comme une aiguille qui me piquait, et ainsi de suite. C'était extrêmement douloureux. Et là, je suis rentré chez moi, je me souviens, je me suis couché, j'ai informé mon frère. Je lui ai dit, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, je respire pas bien. Et j'ai toujours comme quelque chose qui me pique à l'intérieur, c'est bizarre. Et je me rappelle, le lendemain, à 17h, mon frère m'a appelé. Il m'a dit, alors ça va mieux et tout. Je lui ai dit, non, je suis toujours couché, c'est de pire en pire. Et là, il m'a dit, attends, j'arrive. Et donc, j'étais tellement persuadé que j'avais quelque chose. Nous sommes allés dans une clinique. Ils ont commencé à nous faire des examens rapidement. Et là, très rapidement, et donc on a moins parlé de mon cœur, parce que j'ai un gros cœur qui bat très doucement. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ben là, vous avez trois phlébites, vous êtes en train de faire une embolie pulmonaire. Et heureusement que votre cœur ne s'est pas emballé et que vous êtes venu aux urgences parce que vous ne passez pas la nuit. Donc voilà, et donc je me suis retrouvé 3 semaines à l'hôpital et sous anticoagulant pendant 1 an.
Et les symptômes persistants, est-ce que de vous-même, vous auriez pu consulter un spécialiste?
En fait, le corps donne toujours des indices, donne toujours des signaux d'alarme en disant, voilà, là il y a quelque chose, là il faut faire quelque chose. Et la plupart du temps, on ne fait pas quelque chose.
Quel terme a-t-on utilisé pour diagnostiquer votre phlébite?
Embolie pulmonaire.
C'est impressionnant. Est-ce que vous vous doutiez que c'était aussi grave?
Non, parce que même si, paradoxalement, ma mère a été malade d'une embolie pulmonaire, j'ai pas du tout imaginé cela.
Quel traitement le médecin vous a-t-il prescrit? Et en termes d'hygiène de vie, de changement dans votre quotidien, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, déjà, les anticoagulants. Il y avait, je crois que c'était des raisins secs, oui, raisins secs, amandes et autres. C'était la vitamine, j'oublie laquelle, qu'il fallait pas que je mange pendant une certaine période pour aider, parce que c'est pour aider à ce que le sang se fluidifie bien et que tout soit résorbé au niveau des petits caillots que j'avais, en fait. Alors, je prends l'avion avec des bas de contention tout le temps et en fait, je suis plus à l'écoute de mon corps de ce côté-là. Avant, c'était uniquement physique par rapport au sport, mais je suis plus à l'écoute de mon corps de ce côté-là, au niveau du sommeil, que j'essaye de mieux réguler. Quand je me sens fatigué, je force pas dans mon travail ou autre. Je me dis, bon, ben là, tu vas te poser. Donc, je fais plus attention à ce que m'indique mon corps.
Docteur Tristan Miro, on l'a entendu dans ce témoignage, il y a des aliments à privilégier et surtout des aliments à éviter en raison de leur teneur en vitamine K. Expliquez-nous.
Donc, en fait, ce que votre auditeur expliquait, c'est que le traitement anticoagulant, on en a parlé, c'est vraiment le traitement de la maladie veineuse thromboembolique. C'est un traitement qui va fluidifier le sang. Donc, il y a plusieurs classes de traitements anticoagulants. Il y a des anticoagulants qu'on injecte par les veines ou qu'on injecte sous la peau. Hein, c'est souvent aussi ce qu'on a autour d'une chirurgie, par exemple. Et là, il n'y a pas d'aliments auxquels il faut faire en particulier attention. Et puis, il y a des anticoagulants oraux qu'on prend par la bouche. Et à ce moment-là, il y a deux grandes classes. Il y a la classe historique qui sont les anti-vitamine K. Et effectivement, ces anti-vitamine K, eh bien, si on mange de la vitamine K, et on va réverser l'effet en fait, qu'on souhaite. Donc, la vitamine K, on la trouve dans les choux, les tomates, essentiellement. Et donc, on demande effectivement à éviter de manger trop d'aliments contenant de la vitamine K, sinon ça va diminuer l'effet du médicament. Et puis on a depuis maintenant une dizaine d'années des nouveaux anticoagulants qui, eux, n'ont pas besoin effectivement, ne passent pas par la vitamine K et donc on n'a pas de règles alimentaires associées à ces anticoagulants oraux.
Vous restez avec nous, docteur Tristan Miro. Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout de suite, on retrouve Véronique à Paris. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Véronique.
Alors, que dire ? J'ai eu en février un souci avec une phlébite à ma jambe que j'ai d'abord pris pour une contracture musculaire. Donc j'ai beaucoup marché pour passer ma contracture musculaire et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je continuais à avoir très mal. J'ai appelé mon médecin traitant qui n'était pas là, c'est la secrétaire, au vu de ce que je lui ai dit de mon état de santé, m'a dit, mais peut-être faites-vous une phlébite, donc il faut aller vite aux urgences. Voilà, donc je n'y suis pas allée tout de suite, j'y suis allée en fin de journée, après ma journée de travail, et puis arrivée aux urgences, ils m'ont dit, rapidement, asseyez-vous dans un fauteuil roulant, vous ne vous levez plus, et puis ensuite, on a fait un scanner, et alors là, j'avais plus le droit de bouger du tout. Puisque j'avais fait des embolies pulmonaires. Voilà. Donc suite à ça, l'hôpital m'a fait faire beaucoup d'examens. On a trouvé une tache vers les poumons suite à un PET scan. Par précaution, il a été décidé d'enlever cette tumeur qu'on ne savait pas si elle était bénigne ou cancéreuse. Et en fait, il s'est révélé qu'elle était bénigne. Et allô ?
Oui, on vous écoute.
Oui, parce que comme tout à l'heure j'avais un retour, là j'ai plus de retour.
Oui, on vous entend.
C'est plus confortable. Et ensuite, donc, suite à cette opération, j'ai donc continué à être sous anticoagulant. Sur toute cette période, depuis le début fin février, j'étais sous anticoagulant. Et donc en juin, j'ai fait une récidive, mais là j'étais très à l'écoute d'éventuelles phlébites ou problèmes sanguins. Et j'avais pas de prémisse. Et en fait, en fin juin, j'ai refait des embolies pulmonaires. Voilà, pour lesquelles je me sentais pas très bien. J'avais rendez-vous avec mon médecin qui me suivait pour l'opération, qui m'a prescrit un scanner. Et au scanner, ils m'ont dit non, là, il faut rentrer aux urgences.
Et aujourd'hui, Véronique, vous êtes toujours sous traitement anticoagulant ?
Voilà, je suis toujours sous traitement anticoagulant. L'équipe me donne régulièrement des rendez-vous de contrôle. J'ai normalement une visite de contrôle début janvier pour décider si on arrête les anticoagulants ou pas. Parce qu'on ne sait pas quelle est la raison première, en fait, de cette maladie, de cette anticoagulation.
Merci beaucoup, Véronique. Docteur Tristan Miro, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditrice ?
Alors, bonjour Véronique.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
50 ans.
50
c'est
ans.
Pour mon anniversaire, oui.
et du coup, effectivement, je pense que donc c'est la première fois que vous faites à la fois une phlébite et l'embolie pulmonaire dans votre histoire.
Oui, puis dans ma famille, on n'est pas du tout sujet à ce genre de choses. Donc c'est vrai, j'ai pas du tout.
Et donc j'imagine effectivement que les médecins, du coup, quand c'est dans cette situation-là, on va rechercher effectivement les causes. Donc c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dû vous poser la question, est-ce que vous aviez été hospitalisé juste avant ? Est-ce que vous aviez eu une chirurgie ? Est-ce que vous aviez été alité ? Est-ce que vous aviez eu un plâtre ? Et est-ce que vous aviez un traitement hormonal, par exemple ? Et donc si on n'a pas de cause évidente, eh bien à ce moment-là, on va aller effectivement rechercher parfois ce qui peut favoriser aussi la maladie veineuse thromboembolique, c'est les cancers. Et donc, c'est pour ça que j'imagine que vous avez eu beaucoup d'examens.
Oui, tout à fait. Mais à savoir que j'avais effectivement eu une opération en janvier et que la deuxième fois où j'ai fait mon embolie, c'était post-opératoire à la thoracoscopie. Donc, on suppose que ça serait ça, mais c'est 5-6 semaines après chaque opération. Donc, c'est un peu long le délai, mais a priori, ça, c'est la seule cause qu'on a pu déterminer.
Oui, alors le délai est assez compatible. On sait qu'on peut tout à fait faire des événements veineux thromboliques, une phlébite ou une embolie pulmonaire associée, un mois ou même jusqu'à 2 mois après l'épisode en fait initial. Alors il faut en fait simplement s'imaginer que pendant la période à risque, la chirurgie ou l'alitement, eh bien il y a des petites phlébites qui se sont formées en fait dans le réseau veineux et que il n'y a pas eu de symptômes associés, mais que ça s'est développé petit à petit et puis ce n'est que quelques semaines ou un mois et demi après qu'effectivement là on a les premiers symptômes qui peuvent être d'emblée l'embolie pulmonaire, un peu ce que vous avez eu au mois de février.
Merci beaucoup Véronique pour votre appel. Je donne la parole maintenant à Grace qui est à Goma en RDC. Bonjour Grace.
Oui, bonjour Raphaël.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Oui, alors j'ai une mère qui est atteinte de thrombose depuis 2 ans. Alors, elle était tombée au travail sur sa jambe gauche. Et après quelques mois de douleur, elle a consulté le médecin. Et le médecin lui a fait faire beaucoup d'examens, comme le code Doppler, je crois.
C'est ça.
Et puis, on lui a dit qu'elle avait une thrombose. Et comme c'est difficile de faire l'opération de thrombose ici chez nous au Congo, elle est allée en Inde. Et en Inde, on lui a fait faire une opération. Après cela, on lui a donné des médicaments, des anticoagulants, Xalerto, je crois, et de bas, elle porte de bas. Jusqu'à maintenant, elle continue à prendre ses médicaments. Alors je me demande si elle prendra ses médicaments pour toute sa vie et si cette maladie est héréditaire.
Merci, Grace. Question intéressante, docteur Miro. Est-ce qu'il faut être sous traitement toute sa vie et est-ce que la thrombose est héréditaire?
Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. Est-ce que la thrombose est héréditaire? Il y a un terrain familial. C'est pour ça que, à votre précédente auditrice, effectivement, devant tout patient qui fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, on va s'interroger quand même sur les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, vérifier si, dans la famille, il y a déjà eu aussi des phlébites ou embolies pulmonaires, parce que même si on ne va pas forcément retrouver de gènes, on sait que c'est prédisposé au risque de faire des événements pour l'individu concerné. Donc oui, il y a un peu un terrain familial. Maintenant, si pour l'auditrice, sa maman a fait une phlébite, il ne faut pas non plus que l'auditrice se dise qu'elle forcément va faire une phlébite ou une embolie pulmonaire.
Une phlébite n'est pas toujours grave non plus.
Voilà, exactement. Donc, pour les individus qui font des événements, on va s'intéresser à l'entourage pour vérifier s'il y a eu déjà ou pas dans la famille. Maintenant, est-ce qu'on prend un traitement anticoagulant de manière prolongée systématiquement à vie devant tout événement? La réponse est non. Quand on a une phlébite ou une embolie pulmonaire dans le cadre d'une chirurgie ou d'un alitement, c'est-à-dire qu'on a une situation à risque dont on sait que c'est fréquent finalement d'avoir des événements, et c'est aussi pour cela qu'on met des traitements avec des injections préventives, hein, pour éviter de faire des phlébites, mais il peut quand même y avoir un événement. À ce moment-là, la durée va être courte, elle va être de 3 mois, parce que si on n'est pas à nouveau opéré, et le classique c'est quand même la prothèse du genou, la prothèse de hanche, si on n'est pas à nouveau opéré, il n'y a aucune raison de refaire un événement. Maintenant, si c'est en dehors de tout contexte, il n'y avait rien qui prédisposait de faire une phlébite. C'est là où le médecin va prolonger probablement le traitement. Et on a maintenant un peu des symptômes, des signes qui vont nous guider sur la durée du traitement qui peut effectivement, dans certaines situations, dites être à vie, c'est-à-dire en tout cas qu'on n'a pas de date d'arrêt du traitement anticoagulant parce que le risque de refaire une phlébite ou une embolie pulmonaire est élevé et qu'on préfère du coup maintenir le traitement anticoagulant.
Grâce, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oui, j'ai compris. Merci
beaucoup pour votre appel. Et on vous souhaite une belle journée à Goma. On a du mal à joindre les autres auditeurs qui nous ont laissé des messages, mais peut-être que je peux transmettre leurs questions. On a José qui était en Angola, qui voulait savoir quelles mesures de précaution prendre pour éviter de refaire une phlébite.
Donc, quand on a fait un premier événement, tout est basé sur ce qu'on disait juste avant, le contexte. Si on a effectivement une chirurgie, un plâtre, etc., il n'y aura pas de mesures préventives dans la vie de tous les jours parce qu'effectivement, on sait que c'est à nouveau dans cette même situation qu'on sera à risque de faire un événement. Donc la prévention, c'est déjà ces anticoagulations dites préventives. Alors parfois, effectivement, les gens ne comprennent pas parce que c'est les mêmes molécules, mais qu'on utilise à des doses très faibles, en fait, dans des situations, on a dit, hein, par exemple, quand on fait un plâtre, quand on a une chirurgie, on a des petites injections sous la peau au moment de l'hospitalisation ou même en sortir d'hospitalisation. C'est pour éviter les phlébites, c'est une anticoagulation dite préventive. Maintenant, quand on a fait un événement et qu'on n'avait pas de facteur pour expliquer ce premier événement, le traitement anticoagulant, va permettre de prévenir les récidives. Et puis, quand on aura arrêté le traitement, par exemple, effectivement, les situations à risque, eh bien là, il faudra vraiment bien alerter en disant « j'ai déjà fait une phlébite ». Il faut vraiment que j'ai cette dose petite d'anticoagulant pour éviter d'en refaire une.
Et est-ce que, du coup, le risque de récidive est commun, est fréquent ?
Alors, le risque de récidive, il dépend des situations, mais il peut parfois, parce qu'on a des anticorps, par exemple, ou parce qu'on a des déficits dans certaines protéines, être très élevé, et ça justifie de maintenir le traitement anticoagulant. Et il faut bien aussi avoir en tête que... On peut avoir la crainte de refaire une phlébite ou une embolie pulmonaire. Ça, c'est évidemment la peur de refaire l'événement. Que le traitement, c'est le traitement anticoagulant, mais ces traitements anticoagulants ne sont pas dénués d'effets secondaires. Et c'est pour cela qu'on ne met pas tout le monde sous traitement anticoagulant. C'est qu'on sait que ces traitements, ils fluidifient le sang, donc ils font des hémorragies. Et le risque d'hémorragie, lui, il est constant. Il est à peu près d'hémorragie sévère qui conduise à une hospitalisation ou à avoir des transfusions. Il est de 3% par an. Et donc, il faut vraiment que le risque de refaire une embolie pulmonaire, par exemple, soit supérieur à le risque hémorragique. Sinon, on vous donne un traitement qui semble vous rassurer en vous disant comme ça, vous êtes couvert, vous n'allez pas refaire de phlébite ou d'embolie pulmonaire, mais vous risquez de saigner et d'être hospitalisé pour cela, d'avoir un événement hémorragique grave, et donc on aura perdu tout le bénéfice.
Et en termes de prévention, à un premier degré en tout cas, on peut déjà parler d'activité physique adaptée, la marche, le vélo, ce genre de choses, les bas de contention, bien s'hydrater aussi, c'est important.
Alors du coup, il y a souvent des questions par rapport effectivement à l'avion par exemple, avec la compression. Donc l'activité physique, oui, évidemment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le mollet va comprimer les veines, donc faciliter le retour du sang vers le cœur. Et donc dans l'avion... en fait, ce qui arrive, c'est que c'est ce qu'on appelle le syndrome de la classe économique. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens sont assis au fauteuil, les jambes pliées, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour les jambes. Et puis, on peut avoir des vêtements un peu serrés. Et puis, si c'est des voyages prolongés, on ne va pas beaucoup bouger. Et on ne va pas forcément s'hydrater beaucoup. Et c'est là où on peut avoir une phlébite. Alors, l'avion, les trajets prolongés, plus de 6 heures, plus de 8 heures, ça augmente à peu près par 2 le risque. Donc, ce n'est pas majeur non plus. Et donc, les recommandations sont surtout de se lever régulièrement, en fait de déambuler dans l'avion pour réactiver la circulation, de s'hydrater correctement. Et le port des chaussettes de compression ne va pas prévenir le risque de phlébite ou de récidive.
Pareil pour les longs trajets en voiture.
Exactement, pour les longs trajets en voiture, en train, il faut poursuivre en fait une activité physique dans le wagon ou faire des pauses régulièrement pour se mobiliser.
Alors, je vais prendre la dernière question de notre auditeur Ayouba, qui était à Dakar, au Sénégal, qui a des varices depuis quelques temps. Il voudrait savoir si ça peut être plus grave.
Donc, les varices concernent le réseau veineux superficiel, ce qui n'est pas le réseau veineux profond qui va donner des phlébites et des embolies pulmonaires. Donc, les varices en tant que telles, c'est lié en fait à des dilatations des veines sous la peau. Et donc, on peut avoir des phlébites. On en a parlé en tout début d'émission, qu'on appelle des phlébites superficielles. Et en fait, ça va même guérir la varice. C'est-à-dire que quand on traite les varices, on fait même de la mousse dans les varices pour boucher les varices. Donc, on crée des phlébites, finalement, pour boucher les varices. Donc, on ne parle pas de la même pathologie. Et les varices ne sont pas spécialement associées à l'augmentation du risque de thrombose.
Merci à tous, en tout cas, pour vos appels et vos témoignages. Je suis désolée, les lignes n'étaient pas très bonnes. On n'a pas réussi à tous vous joindre, mais j'ai en tout cas posé vos questions. Donc, on est toujours avec vous, docteur Tristan Miro. En termes de complications, on a évoqué donc l'embolie pulmonaire, par exemple, dans la première partie de l'émission. Est-ce que la phlébite peut laisser d'autres séquelles ?
Alors, c'est vraiment le bon terme choisi. C'est-à-dire qu'on va rechercher les séquelles. Et il faut vraiment que vos auditeurs aient cette notion-là. C'est-à-dire que le traitement anticoagulant qu'on va mettre ne va pas forcément tout nettoyer. Et donc, au bout de la durée du traitement, il est d'usage de refaire les examens pour bien marquer les veines qui restent bouchées ou les artères dans les poumons qui restent bouchées, qui ne sont plus des embolies ou des thromboses, parce qu'on est vraiment au-delà de l'événement aigu, qui sont des cicatrices, des séquelles. Et donc, il peut y avoir encore des séquelles, et ce n'est pas en soi la chose la plus grave. Et c'est important d'avoir cette photographie, parce que si on refait un symptôme quelques années après, il faut être sûr que les nouveaux signes qu'on pourrait voir sur un scanner ou sur l'échodoppler ne sont pas en fait des anciennes séquelles de l'événement antérieur, qui seraient restées et qui vont rester toute la vie. Alors, Au niveau des veines des membres inférieurs, si on a des séquelles ou si on a des grosses obstructions, effectivement, on peut garder des symptômes après les phlébites, qu'on appelle le syndrome post-thrombotique, qui sont des œdèmes au niveau des chevilles, une lourdeur dans les jambes, plutôt en fin de journée, dans les positions quand on est debout longtemps, où effectivement, comme le sang a du mal à revenir vers le cœur parce que certaines veines sont toujours bouchées, c'est les séquelles, effectivement, il va y avoir à ce moment-là des développements de varices, des œdèmes au niveau des chevilles, et c'est le syndrome post-thrombotique.
À surveiller donc, parce que 20 à 50%, je crois, à peu près, des phlébites provoquent ce syndrome.
Voilà, alors il va être
malgré
de gravité...
Malgré les traitements, comme vous
voilà,
avez dit.
Voilà, tout à fait. Et il va être de gravité variable, il y a des... Et c'est difficile de prédire, en fait, au moment où on prend en charge les patients pour un premier événement, c'est difficile de prédire s'ils vont avoir des symptômes plus tard. Et c'est bien sûr, plus la thrombose est étendue, importante en termes de longueur, plus elle va être proche des grosses veines, plus il y a un risque de faire ce syndrome post-thrombotique. Mais à la phase aiguë, c'est toujours difficile de prédire, finalement, s'il va y avoir ou pas ces symptômes. Mais dans le suivi qu'il faut avoir effectivement avec un médecin vasculaire ou un angiologue, on peut dépister ces symptômes de syndrome post-thrombotique. Et à l'heure actuelle, effectivement, on peut proposer des traitements, là cette fois invasifs, qui pourraient, mais c'est encore à l'état d'étude actuellement, diminuer ces symptômes post-thrombotiques.
Vous restez avec nous, docteur Tristan Miro. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve le docteur Marcus Foucault. Bonjour.
Et bonjour madame et bonjour aux auditeurs de RFI.
Bonjour, vous êtes chirurgien vasculaire à l'hôpital général de Yaoundé. Docteur Foucault, est-ce que la phlébite est un motif de consultation au Cameroun? Est-ce que c'est un trouble cardiovasculaire qui est connu?
Merci. La phlébite est de plus en plus connue. Et en milieu hospitalier, on en rencontre de plus en plus. Dans la population, par contre, la connaissance est un peu faible, mais en milieu hospitalier, on rencontre de plus en plus de phlébites et leurs complications en plus.
Alors justement, quel type de cas est-ce que vous constatez?
On a depuis un certain temps dans les services de réanimation de plus en plus d'embolies pulmonaires, parfois mortelles. Et nous, moi particulièrement, qui fais les maladies vasculaires, j'ai beaucoup de malades qui viennent plutôt dans les phases tardives avec les complications post-phlébitiques, comme le collègue disait tout à l'heure. Et souvent, c'est en évaluant qu'on se rend compte que le malade a une thrombose qui était parfois méconnue de lui-même et peut-être de l'équipe qui l'a pris en charge à cette époque-là. Mais il faut dire qu'avec... l'extension des moyens d'exploration, surtout de l'échographie, qui devient de plus en plus populaire dans notre environnement, on découvre de plus en plus de phlébites, pour utiliser le terme que vous avez vous-même utilisé. Et voilà, c'est ce que je peux donner comme élément préliminaire de réponse.
Et donc, vous nous dites que vous constatez quelques embolies pulmonaires. Ça veut dire que les patients arrivent en consultation trop tard? Ou est-ce que c'est parce que les spécialistes ne sont pas assez accessibles au Cameroun?
Les deux paramètres vont d'ailleurs ensemble. On diagnostique exceptionnellement ici une thrombose à sa phase aiguë. Et c'est souvent lorsqu'on a eu la complication, qu'elle soit la mule pulmonaire ou les complications lointaines, qu'on fait le chemin inverse pour se rendre compte qu'il y avait une thrombose. Sauf pour les malades qui sont hospitalisés pour une raison ou pour une autre, et chez qui il y a une petite surveillance plus étroite et qui permet de se rendre compte plutôt rapidement qu'il y a une thrombose et même les mesures thérapeutiques. Mais dans l'ensemble, les arrivées tardives sont le lot le plus habituel.
Et donc, comment est-ce que vous traitez les phlébites à Yaoundé?
Merci. Globalement, vu l'arrivée tardive des malades, on ne fait essentiellement que les traitements médicaux ou conservateurs avec la compression médicale, les mesures de posture et les anticoagulants qui sont bien disponibles ici, que ce soit les anticoagulants par voie injectable ou les anticoagulants oraux anciens et même les nouveaux. Ils sont bien disponibles dans les grands hôpitaux ou bien dans les principaux centres urbains au Cameroun maintenant.
Et pas la chirurgie par contre?
Voilà, j'allais en venir. Malheureusement, les mesures comme la thrombolyse et la chirurgie ne sont pas encore entrés dans la pratique, premièrement parce qu'il n'y a pas suffisamment de faits pour faire ça, mais deuxièmement parce que quand c'est des mesures qui ne sont véritablement rentables qu'à la phase aiguë, la plupart des patients arrivent lorsque les bénéfices de ces pratiques peuvent ne sont plus à l'ordre du jour. Je parle encore de la thrombose, de la chirurgie. Donc, généralement, on ne traite pour l'instant qu'avec les anticoagulants, mais probablement dans l'avenir, on va aussi y arriver parce que les médecins sont de plus en plus informés, les moyens diagnostiques se répandent de plus en plus.
Et les expertises se répandent.
Voilà, également, merci.
Et alors, quels sont les moyens de prévention dont vous disposez de manière générale?
Voilà, tout pour les malades qui ont des facteurs de risque bien identifiés, les médecins savent bien les mesures qu'il faut mettre en place, notamment la mobilisation, les mesures générales contre la mobilisation et la compression, et même parfois les médicaments à visée préventive, les anticoagulants dans leur abus préventif. Mais pour la population générale, je voudrais dire que ce n'est pas évident. Ils ne sont pas suffisamment informés ou éduqués ou sensibilisés à cette pathologie pour pouvoir utiliser eux-mêmes les mesures préventives. Mais l'activité physique est connue ici pour être quelque chose qui réduit les facteurs de risque des maladies dans l'ensemble. Donc, du coup, beaucoup de gens dans l'activité physique, même si ce n'est pas orienté purement vers la prévention de la maladie thromboembolique, ça contribue certainement aux mesures préventives dans la population générale. Mais à l'hôpital, c'est bien, les mesures sont bien prises quand les malades sont hospitalisés et qui ont des facteurs de risque particuliers.
Vous parlez d'activités sportives, est-ce que c'est par exemple de la marche ou plus?
Il y a la marche, il y a les autres types de sport, mais chez nous, les activités physiques, les populations.
Allô? Ah, nous avons perdu le docteur Marcus Faucoux. On va essayer de vous rappeler. Sinon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne vers vous, docteur Tristan Miro. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu?
Oui, notamment sur un terme qui a été utilisé par le docteur Marcoux, qui est la thrombolyse. Effectivement, j'expliquais le traitement anticoagulant va empêcher que le caillot s'étende. Hein. Mais ce n'est pas le traitement anticoagulant qui va détruire le thrombus, la phlébite ou le caillot. On a nous-mêmes toutes les enzymes, tout le matériel nécessaire pour en fait détruire le caillot. C'est ce qu'on appelle la thrombolyse, c'est-à-dire effectivement détruire le caillot. Alors il existe des médicaments qu'on peut utiliser qui sont en fait des copies, des substituts des enzymes que l'on a nous-mêmes à l'intérieur du corps, que l'on peut utiliser pour détruire les caillots. Le problème en fait de ces médicaments, si vous voulez, c'est que évidemment ils sont efficaces pour détruire les caillots, mais qu'ils peuvent faire saigner, et donc c'est réservé dans des situations en fait vraiment graves, notamment l'embolie pulmonaire où le pronostic du patient est en jeu. À ce moment-là, il y a une indication effectivement à faire une thrombolyse pour sauver le patient. Même si le risque est de le faire saigner, au moins on prend l'avantage de sauver le patient de l'embolie pulmonaire grave. Dans la phlébite, ça a été essayé. Effectivement, ça peut fonctionner pour détruire le caillot, mais comme ça fait saigner dans certaines situations, le risque est trop important de saignement par rapport au bénéfice. Alors maintenant, ce qui est proposé, c'est d'essayer de faire de la thrombolyse sans la thrombolyse, de dissoudre le caillot par l'extérieur ou en aspirant le caillot. Mais tout cela reste des techniques qui sont à l'étude actuellement.
Docteur Marcus Faucoux, on vous a retrouvé. Allô?
Oui, je suis de nouveau connecté avec vous, madame.
Je voudrais vous poser une dernière question qui me paraît importante. Est-ce que vous avez surtout un message à faire passer à la population, aux auditeurs?
Merci. Si un message important, c'est celui de savoir que même en milieu africain, les veines peuvent être malades. Parce que c'est connu ici dans l'ensemble comme pour être des maladies exotiques. Mais on a les veines chez nous et les veines peuvent être l'objet de toutes les maladies. Donc, chaque fois que quelqu'un aurait une douleur, un gonflement du membre inférieur, il faut se référer vraiment à un personnel soignant pour que ce soit évalué pour exclure une phlébite. Voilà, une activité physique régulière permet aussi aux gens de réduire les risques d'arriver à ce genre de problème. Voilà. Voilà les deux messages simples que je pourrais faire passer à la population.
Ne pas négliger une douleur dans la jambe. Merci beaucoup, docteur Marcus Foucault, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire à l'hôpital général de Yaoundé, au Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Docteur Tristan Miro, en quelques mots, est-ce que vous auriez des conseils en termes de prévention? Et je pense notamment aux femmes enceintes.
Alors, pour les femmes enceintes, maintenir l'activité physique. On a parlé un peu tout à l'heure de la compression veineuse. Encore une fois, la compression veineuse va aider à diminuer l'œdème au niveau des chevilles, donc à faciliter la mobilité, mais a peu d'effet sur la prévention des phlébites. Il ne faut pas penser qu'on est forcément couvert lorsqu'on porte une compression veineuse, mais en tout cas, c'est utile pour les symptômes, pour les œdèmes, et donc là-dessus, aucun problème. Ensuite, s'il y a le moindre signe, effectivement, de douleur au niveau des mollets, ou pour l'embolie pulmonaire, d'essoufflement, de douleur au niveau de la poitrine, il faut consulter rapidement. Il y a des examens que l'on peut réaliser pendant une grossesse et qui permettent de diagnostiquer la phlébite et l'embolie pulmonaire. Et les traitements anticoagulants ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse.
Et en trois mots, où est-ce qu'on est la recherche aujourd'hui?
Alors la recherche, elle évolue sur plusieurs points. On a vu les durées de traitement, parce qu'effectivement, il y a des situations où on ne sait pas encore s'il vaut mieux laisser le traitement anticoagulant ou s'il vaut mieux arrêter le traitement anticoagulant. Et donc, il y a des études là-dessus. Et puis, également, sur le fait de réouvrir les veines qui sont encore bouchées, soit à la phase aiguë, soit lorsqu'il y a des syndromes post-thrombotiques, ces séquelles. Est-ce qu'on a des moyens pour permettre au sang de repasser dans la veine qui était bouchée et qu'on pourrait réouvrir? Et donc, il y a des études en cours, soit avec des stents, qui permettent, là c'est un traitement invasif, d'aller dans la veine, de la dilater, de mettre un stent, soit avec des ultrasons, ce qu'on appelle la thrombotripsie, qui permettrait, mais encore c'est à l'état d'étude, de détruire soit le caillot à la phase aiguë, soit de réouvrir la veine à la phase de séquelle.
Docteur Tristan Miro, merci beaucoup d'être venu dans le studio de Priorité Santé et pour nous avoir donné toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin interniste et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et à l'hôpital Corentin Celleton à Issy-les-Moulineaux.
Priorité Santé sur RFI.
À l'occasion de la 6e journée nationale de l'infertilité en France, on retrouve en ligne le docteur Colin Chao, responsable de l'unité de procréation médicalement assistée de l'hôpital Saint-Denis en région parisienne. Bonjour docteur Chao.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'infertilité et la stérilité?
Alors, la stérilité en soi, on n'emploie plus du tout ce mot-là. On parle d'infertilité le plus souvent, donc une difficulté à concevoir au bout d'un an de rapport sexuel sans contraception.
Et il faut le rappeler, l'infertilité concerne aussi bien l'homme que la femme.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, est-ce que vous auriez des chiffres?
On a 30% d'infertilité de cause masculine, 30% de cause d'infertilité féminine. Environ 20% d'infertilité mixte et 20% où on ne sait pas trop, on parle d'infertilité inexpliquée.
Alors à partir de quel moment, docteur Chao, vous conseillez d'aller consulter?
Pour une femme en dessous de 35 ans, c'est un an de rapport régulier. Au-delà de 35 ans ou s'il y a des règles qui sont irrégulières ou quelque chose qui fait appel à la patiente, il faut consulter au-delà de 6 mois.
Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres ou des facteurs de risque?
Donc on a souvent certaines patientes qui ont déjà été opérées, qui ont eu des chirurgies pelviennes, notamment des infections des trompes, des grossesses extra-utérines, elles ont effectivement plus de risques d'avoir des difficultés à concevoir par la suite. Et l'autre chose très fréquente dans la population, c'est 15 à 20% de la population, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui va se manifester par des règles irrégulières.
Et aujourd'hui, docteur Chao, est-ce qu'on peut définir les causes majeures de l'infertilité?
Les causes majeures, oui, bien sûr. On a du côté féminin, c'est donc les causes d'anovulation, les ovulations qui sont irrégulières. On a la maladie des trompes, l'infertilité tubaire. Et de l'autre côté, côté masculin, une diminution du nombre de spermatozoïdes, une diminution de la mobilité des spermatozoïdes. En gros, c'est vraiment des grosses causes d'infertilité.
Et est-ce que certaines infections sexuellement transmissibles, qui ne sont pas traitées suffisamment tôt, peuvent aussi être la cause de l'infertilité?
Oui, en effet, ça rentre dans les pathologies tubaires, les causes avec les maladies des trompes. Donc c'est effectivement les infections sexuellement transmissibles qui vont entraîner une infection de la trompe qu'on dit salpingite, et ça, effectivement, mal traité peut entraîner une infertilité.
Alors, il y a des causes, on le comprend, réversibles et d'autres que l'on ne peut pas guérir. Est-ce que vous avez des exemples?
Le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, est une maladie que la femme a toute sa vie. Ensuite, quand on a une trompe en moins, bah, effectivement, ça reste irréversible. En réfléchissant, il y a quand même peu de choses qui sont réversibles. On va dire que c'est des choses qui se dégradent, ou des choses qui sont déjà amputées chez la patiente, ou qui sont comme par exemple la trompe qui est retirée. Les choses qui me viennent à l'esprit là, c'est peut-être les facteurs environnementaux. Donc les conseils qu'on donne aux patients, c'est le tabac qui peut diminuer le sperme, le surpoids, l'obésité qui peut diminuer les résultats de la fécondation in vitro. Voilà, vraiment les facteurs environnementaux sur lesquels on peut jouer.
Et alors aujourd'hui, quels sont les recours disponibles en France et dans le monde?
Il y a donc la procréation médicalement assistée, et du coup qui comporte plusieurs types d'aides, hein, qui soient juste une petite aide à la patiente type insémination intra-utérine. Ça veut dire qu'on va mettre le sperme de monsieur à l'intérieur de l'utérus. Mais ça peut être aussi des techniques beaucoup plus poussées, type fécondation in vitro.
Par injection, par exemple.
Qui engendre une ponction. Donc, ça veut dire qu'on récupère les ovocytes de la femme et on récupère le sperme et on fait vraiment le bébé éprouvette.
Et l'infertilité également entourée d'un certain nombre d'idées fausses. Qu'est-ce que vous constatez en consultation?
Des personnes qui viennent trop tôt ou trop tard, qui ont vu leur médecin traitant et qui disent « Ah, vous avez le temps », et qui arrivent du coup à 38 ans, 40 ans, ça fait déjà 4-5 ans qu'elle essaye, voilà. Des patientes qui pensent que... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Peut-être que en trois mots, vous pourriez nous dire si vous avez un message à faire passer?
Ne pas hésiter à consulter un spécialiste avec le moindre doute. Mieux vaut consulter plus que pas assez.
On vous écoute.
Et ne pas attendre au-delà de 35 et 38 ans où ça peut être un peu trop tard.
Merci docteur Colline Chao d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de procréation médicalement assistée de l'hôpital Saint-Denis en région parisienne. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Setou Samaké, Juliette Brault, Mostefa Mostefaoui et Didier Bleu à la réalisation. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré pour parler du deuil avec un psychologue et psychothérapeute à Dakar, au Sénégal. On vous donne rendez-vous lundi à 9h10, temps universel. Et d'ici là, bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.